Oui, bonsoir, ici le 01-45-24-7000. Posez votre question. Oui, bonjour madame, je viens d'écouter madame Lagarde ce matin. Je voudrais savoir pendant combien de temps encore elle va nous raconter des conneries. Mais que voulez-vous dire, monsieur? Quelle est votre question? Eh ben, je dis, votre question, c'est que je voudrais savoir pourquoi il y a... Alors, on nous dit, il y a beaucoup d'appels, précipitez-vous sur le téléphone, et puis on vous passe 3 appels. Les autres, c'est consacré à des spécialistes qui sont en studio entre 2 croissants et une table de café. Donc, je voudrais quand même demander à Daniel s'il pourrait pas intervenir auprès de ces censeurs, là, du matin, pour qui, évidemment, évitent les questions un peu directes et un peu intelligentes, hein. Voilà. Merci, à bientôt, Daniel. Continue. C'est Maurice dans le Gard. Voilà.
Oui, bonjour, Antoine. Prenons quelques instants, s'il vous plaît, et comparons notre société humaine à un corps. Tout le monde voit bien, par la présence des différents symptômes, que ce corps souffre d'une maladie. En effet, à l'intérieur de l'organisme, une tumeur grossit en se nourrissant des globules, force vive du corps. La tumeur squatte, un parasite en quelque sorte. Pour guérir de cette maladie, rien de plus simple. Il suffirait juste que les globules se concentrent sur la destruction de la tumeur. Or, et c'est là tout le problème, l'organisme est accoquiné avec la tumeur, pensant à tort qu'elle le nourrit. L'organisme, alors, aide la tumeur en faisant croire à chaque globule que la cause de son mal est le symptôme voisin. Les globules sont donc consacrés à combattre des symptômes. Pendant ce temps, la tumeur, elle, continue de se nourrir. Elle grossit et multiplie les symptômes. Voilà le cancer de la société. Un espoir de guérir ce cancer existe toutefois. L'émission Là-bas si j'y suis est un des remèdes possibles. Elle apporte en effet un message extérieur à l'organisme en direction des globules. Ce que Daniel Mermet et son équipe ont bien compris, c'est que les globules doivent décrypter les faux messages de l'organisme. Et c'est en globalisant les symptômes qu'ils lutteront efficacement contre la tumeur. L'organisme reçoit alors le message clair que sa santé et sa longévité dépendent des globules et non de la tumeur. L'anéantissement de la tumeur supprimera tout symptôme. Les globules pourront alors bosser en paix et circuler librement. Courage les globules, on continue.
Oui, bonjour, là-bas si j'y suis. Voilà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors mes sources d'information, parce que maintenant il paraît que les journalistes doivent donner, justifier leurs sources d'information, c'est dans le Nouvel Observateur de cette semaine. Eh bien, il y a un monsieur Thomas Beatty, américain, qui est enceint, c'est-à-dire qui attend un bébé. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour nous les femmes. Et la dame là, qui a eu son mariage annulé pour ne pas être vierge, ben qu'est-ce qu'elle a eu de la chance quand même. Je crois qu'elle devrait être contente. Et bientôt les hommes vont accoucher et nous allons prendre le pouvoir. Au revoir.
Les enfants d'école primaire du Maine-et-Loire parlent aux auditeurs modestes et géniaux. Vous voulez que les enfants apprennent comme des robots? Pas nous. Vous acceptez des classes surchargées et que les enseignants ne soient pas remplacés? Pas nous. Vous souhaitez que les débats dans les classes soient remplacés par des leçons de morale à l'ancienne? Pas nous. Vous voulez supprimer les classes découvertes et les projets culturels à l'école? Pas nous. Vous voulez réduire l'enseignement des sciences et de l'histoire géo de 4 heures par semaine? Pas nous. Vous souhaitez marginaliser les élèves en difficulté avec des heures de soutien après la classe? Pas nous. Si comme nous, vous pensez que la réforme de Xavier Darcos est une aberration, travaillez plus pour apprendre moins, bougez-vous. Comme vous, informez vos parents pour qu'ils occupent vos écoles et ne pensent pas que rien ne peut changer. Charlotte, élève de CM1 à Bourg-l'Évêque, en Maine-et-Loire.
Bonjour, c'est Thomas de Dijon, 24 ans, il est déjà pas mal blasé de ce monde tellement absurde et révoltant, ici dans nombre de dimensions. J'ai écouté votre émission du vendredi 30 mai sur les mouvements de régularisation des travailleurs sans papier, et vraiment, j'aimerais tellement que les messages si clairs, profonds et justes qui sont passés puissent passer à nouveau, mais cette fois aux oreilles de tous ces gens qui stigmatisent ces lointains et diaboliques étrangers immigrés, afin qu'ils sortent de toutes ces idées reçues tellement inhumaines, fausses. Alors j'ai une idée à vous soumettre, monsieur Mermet. Si vous pouviez ressortir votre combinaison latex noir, votre cape et votre chapeau péruvien de justice sociale et humaniste, pour vous introduire discrètement une nuit dans les locaux de TF1 de France 2 pour balancer ses témoignages si forts aux heures de grande écoute, je pense qu'une partie de l'électorat même piste se prendrait un sacré cas de conscience dans sa figure. Enfin bon, voilà. Allez, vive la Bastille, j'y suis. Émission d'intérêt public et même d'intérêt terrestre que je ne connais que depuis quelques mois, mais déjà devenue incontournable dès que mon planning me le permet. Merci à vous, pour eux et tous au combat.
Oui, bonjour là-bas, si j'y suis. Oh, j'ai versé ma petite larme, c'était bien triste, cette émission du vendredi, ces pauvres immigrés, oh là là, tous les malheurs. Mais en fait, j'ai pensé à une chose, ils sont peut-être malheureux en France, mais qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique du Sud, là, de tout, hein? Je sais pas, moi je propose une chose, hein, c'est que Monsieur Mermet fasse une émission sur la façon dont sont traités les immigrés en Afrique du Sud. Je suis sûr qu'on pourra trouver, à mon avis, j'ai déjà une émission, c'est la faute de l'apartheid. Ça c'est sûr, hein. Moi je pense que c'est ça, hein. Ces salauds blancs là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? S'il y a des noirs qui massacrent des immigrés noirs en Afrique du Sud, c'est forcément la faute des blancs. Voilà, à bientôt. Au fait, félicitations toujours, hein, le pari tient toujours, donc Daniel Mermet est toujours sur France Inter et Kim Jong-il dirige toujours la Corée du Nord, donc un partout, balle au centre, mais moi j'ai toujours parié sur Daniel Mermet, je pense que Kim Jong-il sera plus, il n'y aura plus de communisme en Corée du Nord, mais Daniel Mermet aura toujours son émission sur France Inter. Voilà.
Ah, on va pas loin, on va en Chine aujourd'hui, amis sinolâtres, amis sinophobes. Vous allez pouvoir vous en mettre plein les oreilles, mais 68, c'est fini, on a rangé, on a replié les parasols, et maintenant, c'est la Chine. Alors, eh ben, on retourne en Chine, on y était allé à plusieurs reprises, enfin, notamment l'an passé, en février 2007, et on va reparcourir à nouveau cette terre de contraste. Je voudrais remercier nos amis de Sochaux, plus exactement d'Audincourt, qui nous ont reçus ce week-end, l'occasion de la célébration de 68, de mai 68, à Sochaux, chez Peugeot. Et nous, ben, on va continuer quand même, pour tout vous dire, sur 68. On va faire un après-mai. Et la semaine prochaine, on évoquera ce que fut le 11 juin 1968 à Sochaux. Il y a eu des altercations très violentes entre les salariés et les forces de l'ordre qui se sont soldées par 2 morts ce jour-là et 150 blessés. C'était il y a 40 ans et avec Antoine Chaon, on a retrouvé un certain nombre d'acteurs de ce moment-là. Merci aussi à Jacques Lifshin et à son théâtre de l'Unité pour son accueil et son talent. Donc voilà, aujourd'hui la Chine, sinola très sinophobe en route, directement on y va tout de suite. La Chine, un éléphant qui fait du vélo.
On a très très bien mangé, là on est reçu dans une aile de votre château sous les dorures, les lambris. On a mangé un repas qui n'en terminait pas avec une quinzaine de plats, de la langouste et je ne sais quoi. On a trinqué toutes les 5 minutes avec du Bordeaux. Mais la première question c'est, est-ce que vous avez une idée de votre fortune?
Comment vous avez fait pour venir sans problème?
Je suis venue au risque de perdre ma vie pour vous raconter tout ce que j'ai vécu. De toute façon, on perd notre terre, on n'a plus de quoi vivre. De toute façon, on va mourir.
Donc vous n'avez plus rien à perdre, c'est pour ça que vous parlez.
Oui.
Bienvenue en Chine. Bienvenue en Chine.
Nous, on est français.
Oh. Flance.
Flance. Flance. On vient de Flance. Ouais, c'est ça. Tu connais la Flance?
Je crois que c'est là-bas. Là-bas, c'est juste France Inter. 法国国家广播电台
ça Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, j'y suis avec Guy Vanctil. Un voyage dans le miracle chinois.
Flight number 2, arriving from...
C'est le grand stade. Hein? Ce sera le grand stade. Ah, c'est pas mal quand même. Hein? On est dans le chantier du site des Jeux Olympiques de Pékin 2008. Alors là, on est au pied de ce qui va être l'endroit, le lieu, on peut dire l'objet le plus photographié au monde en août 2008. C'est le grand stade de Pékin pour les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce que c'est ce grand stade? C'est un nid d'hirondelles. C'est les structures et les nervures et l'emmêlement des fils d'un nid d'hirondelles. C'est absolument magnifique. Là, c'est en cours de travaux. Les gars sont au boulot. Minuscule avec des casques jaunes. Et là, c'est l'immense site. Il y a une brume légère. Je ne sais pas si c'est dû au climat, au temps ou à la pollution. Et derrière nous, il y a un grand cube de glace, on pourrait appeler ça. Une très belle construction aussi, qui sera la piscine olympique, qui est déjà là, la piscine olympique. Enfin, je pense que c'est à peu près construit.
Et des dizaines et des dizaines de grues à perte de vue.
Et là, c'est en construction, il y a toutes les baraques, les baraquements des ouvriers qui sont sur ce chantier. Et alors, on dit que les Chinois auront fini en avance. Les Grecs à Athènes étaient en retard et les Chinois seront en avance. Alors on ne sait pas, ça absorbe des dizaines de milliers de bras et d'ouvriers. Et donc ce sont les fameux Mingong qui sont une sorte d'immigration intérieure. Et voilà, on va essayer de s'approcher un peu plus. Ce sera, n'en doutons pas, la seconde la plus attendue, l'instant le plus regardé au monde, le 8 août 2008, soit le 8-08-08, à 8 heures, 8 minutes, 8 secondes, s'ouvriront les Jeux Olympiques de Pékin. La forme du 8 étant le symbole de la prospérité. Et c'est là, bien normalement, que nous nous empressons d'aller en arrivant à Pékin par cette grise matinée d'hiver. Pourquoi le 8? Parce que le 8, c'est le symbole de la prospérité. 1 million de travailleurs migrants provenant des campagnes chinoises travaillent à la construction de ce site olympique et notamment de ce que nous voyons devant nous, c'est-à-dire ce fameux nid d'oiseau. Vous l'avez peut-être déjà vu, en tous les cas vous le verrez sous toutes les coutures l'an prochain, construit qui rappelle un nid d'hirondelle, fait de 50 000 tonnes de poutres d'acier géante entrecroisées et qui ne repose sur aucun pilier vertical, une des prouesses de ces Jeux Olympiques de 2008. Si en débarquant à Pékin ce matin-là, on comprend qu'on ne comprendra pas tout à cet univers immense et divers, qu'une vie ne suffirait pas pour explorer, ne fût-ce que superficiellement, comme disait le talentueux écrivain Simon Leys, si cette multitude, cette foultitude de 1,35 milliard d'âmes, si cette croissance à deux chiffres depuis des années, si ces bouleversements, ces renversements, ces chiffres toujours époustouflants, si tout cela nous rend modestes, nous restons quand même assez géniaux pour comprendre, même si nous ne sommes pas des sinologues d'experts, pour comprendre que toute l'énergie, tout le dynamisme du miracle chinois repose sur l'exploitation systématique et entretenue de centaines de millions de sous-prolos payés entre 10 et 30 fois moins cher qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Alors, c'est vrai que pour les chinolâtres, les sino-béats, il y a la Chine qui fascine. C'est la Chine fascinante. Alors, cette Chine fascinante, elle a deux faces. Celle qui fait peur et celle qui enthousiasme. On va voir que ça date pas d'hier, ce mélange de fascination, à la fois de peur et d'enthousiasme. Mais la question qui se pose à nous, qui vivons dans une zone d'Europe où depuis 25 ans, on assiste à la destruction d'emplois, à la montée du chômage, à la précarité généralisée à toutes les couches de la société, ou presque, on sait ce que sont les délocalisations et on peut se consoler, si toutefois c'est une consolation, en se disant que, eh bien, si nous connaissons ces difficultés, ce que d'autres avaient en d'autres temps appelé une crise, eh bien, dans les pays pauvres, dans les pays en développement, comme l'on dit pudiquement, c'est un bien puisque ça va permettre le décollage, ça va permettre un certain développement. Or, si cela a été vrai pour ce qui concerne la Chine, après ce qu'on a appelé l'ouverture, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les écarts ne cessent d'augmenter entre la minorité la plus riche et l'immense majorité la plus pauvre. Selon la Banque mondiale, 70% des bas revenus ont vu leur pouvoir d'achat baisser en 2006. 10% des Chinois les plus pauvres se sont appauvris. Quand on dit 10% des Chinois les plus pauvres, ça fait quand même 135 millions de Chinois. Entre 2001 et 2003, les 10% les plus pauvres ont perdu 2,5% de revenus, alors que les 10% les plus riches voyaient leurs revenus augmenter de 16%. Toujours selon ce tout récent rapport de la Banque mondiale, le produit national brut de la Chine ne cesse d'augmenter, mais c'est les classes moyennes supérieures qui en profitent au détriment de ceux qui ne cessent de s'appauvrir. Et je le répète, c'est la Banque mondiale qui le dit dans ce rapport. Elle indique également, au passage, que 6% des familles possèdent plus de 40% des biens financiers du pays. Et là, évidemment, on s'interroge. On s'interroge sur l'admiration devant ce miracle chinois, devant cette fascination qu'éprouve bien du monde, bien des médias, bien des politiques qui vont faire un tour là-bas, bien des intellectuels. C'est pourquoi nous partons dans les coulisses de ce miracle, à l'envers de ce miracle, un voyage dans le miracle chinois, dans la basse Suisse.
Slovaque, en Suède.
Ah, vous êtes des ingénieurs étrangers.
Voilà.
C'est ça. Hey, c'est drôlement beau, ça, hein.
C'est beau, hein.
Ah, ça va, c'est pas mal. Ouais, ça fait longtemps que je suis là. Moi, je m'en fous un peu maintenant.
Ah bon? Ah oui, il s'en fout un petit peu, notre ami que nous rencontrons à l'instant même. Autour de cette formidable construction, ce nid d'hirondelle qui sera le clou des Jeux Olympiques de 2008. Lui, il est là, endormi à moitié, sommeillant sur le volant de son camion et attendant qu'on lui demande d'aller, de venir, de transporter ça et là les matériaux nécessaires à cette fabuleuse construction. Il n'est pas seul, le chauffeur de ce camion. Ils sont un million de travailleurs qui travaillent sur ces chantiers, les chantiers des Jeux Olympiques de Chine. Je dis Chine parce que ce ne sera pas seulement à Pékin. Il y a 38 sites en Chine, dont 31 à Pékin. On attend entre le 8 et le 24 août 2008, 22 000 journalistes, 10 500 sportifs. Il y a 100 000 bénévoles qui travailleront et qui seront à la disposition de tous. Et le coût estimé pour l'instant est de 41 milliards de dollars, soit trois fois plus qu'à Athènes. On s'attend évidemment à des chiffres époustouflants. Et l'on n'est pas déçu. 300 000 résidents du centre-ville ont été délogés de leurs maisons qui ont été rasées pour construire de nouveaux buildings dans la perspective de ces Jeux Olympiques. Donc c'est un défi que se lance la Chine et que la Chine lance au monde pour montrer évidemment sa puissance. Puissance qui effraie, puissance qui fascine. Est-ce que notre ami chauffeur qui se trouve là, lui, est très fasciné par tout ça?
Alors, ça va le travail?
Comment ça?
Le boulot?
T'es là.
Gagner de l'argent. Tu es un mingong, ce qu'on appelle les mingong?
Ouais,
on peut dire que je suis un mingong. Je suis chauffeur, mais je suis mingong.
C'est ça. Moi, je suis Shandong.
Je viens du Shandong.
C'est loin alors?
400 km.
Ah, il y a à peu près 400 km.
Non, mais.
Ah non, on est des paysans.
Ah bon?
Ah
ouais. Et depuis combien de temps vous êtes à Pékin?
Moi, je suis à Pékin. 2000
ans. Ça fait 10 ans que je suis à Pékin.
10 ans? Et ça marche bien?
Pas facile, hein. Plus facile.
C'est pas facile?
Pour gagner de l'argent.
Ouais.
Pas facile.
Ouais. Et vous envoyez de l'argent là-bas au pays?
Ah ouais, je gagne l'argent ici, puis je le dépense chez moi, dans le Shandong.
Et ici, vous êtes avec la famille, avec la femme et les enfants ici?
Ouais, ils sont tous ici. Puis des enfants, j'ai deux enfants.
Si c'est pas indiscret, combien on gagne comme chauffeur de camion, de chantier comme ça?
2000 quoi, à peu près.
2000 quoi, et par mois, 200 euros.
Tout droit.
Ah, c'est pas assez. C'est tellement peu, tellement peu.
Tu gagnes 2000 quoi, et par mois, mais pour combien d'heures de travail?
Des fois, je travaille toute la journée du matin jusqu'à la nuit. À partir de 5h du matin. Jusqu'à 10h le soir. Je suis disponible pour bosser.
Et combien de jours par semaine?
Non, il n'y a pas de jour de repos. Tous les jours de la semaine.
Ah oui, quand ils veulent te faire travailler.
Ouais, c'est ça. Le patron me dit que je travaille tant.
Ah, tu te reposes jamais?
Ouais, si tu te reposes, tu gagnes pas d'argent.
Voilà, 200 euros par mois pour ce chauffeur de camion. Il fait partie donc de ce million, un million de travailleurs migrants. On dit les Mingong, qui sont ces travailleurs qui viennent des campagnes, qui se fixent ou reviennent dans leurs campagnes selon les régions, selon les opportunités, et qui sont la véritable masse qui est la raison et le moyen de ce miracle chinois. C'est l'exploitation de cette multitude de migrants de l'intérieur qui permet ce miracle en grande partie. Mais là, on
Évidemment, on se dit quel épouvantable régime, c'est un régime à la fois communiste et capitaliste, c'est absolument monstrueux. Mais il faut quand même savoir, et le gouvernement chinois est très surprenant, a surpris récemment, avec notamment ses déclarations sur l'environnement, là c'était des déclarations sur la propriété privée. Il y a eu une déclaration de ce gouvernement qui a passé un peu plus inaperçue dans la presse internationale, devant l'augmentation des conflits sociaux, on en parlera de ces conflits sociaux, qui se multiplient à travers la Chine. Pour 2005, c'est plus de 80 000 conflits sociaux qui ont été dénombrés par les autorités elles-mêmes. Donc le gouvernement chinois a décidé de renforcer la protection des employés. Alors évidemment, ces déclarations sont généralement accueillies avec une certaine réserve, avec un certain scepticisme de la part des observateurs, mais enfin, ces déclarations sont tout de même faites. Et bien aussitôt, après cette déclaration-là en tout cas, les représentants des entreprises étrangères se sont montrés très critiques, et notamment la Chambre de commerce des États-Unis, qui a déclaré que ces mesures créeront le chaos dans le monde du travail, affaibliront la compétitivité des entreprises chinoises et auront des conséquences négatives sur l'économie nationale. Le bien-être du travailleur chinois, c'est toujours la Chambre de commerce américaine qui parle, c'est quand même pas mal, le bien-être du travailleur chinois ne dépend pas seulement de la loi du travail, mais aussi de la survie et de la croissance continue des entreprises où ils travaillent. Fin de citation. C'est une citation intéressante parce que faut bien avoir présent à l'esprit, tout au cours de ce voyage, que le boom chinois, le miracle chinois, continue de profiter d'abord aux groupes étrangers. Ce qui fait d'ailleurs qu'on va rencontrer tout au cours de ce voyage des Chinois qui sont assez sceptiques face à ce boom, qui se disent « mais notre pays ne nous appartient plus ». Il y a un fort sentiment national, pour pas dire nationaliste en Chine, et qui trouve que tout ça, ça rapporte plus aux étrangers, aux longs nez présents en Chine, enfin dont les entreprises sont présentes en Chine ou qui ont investi en Chine, plutôt qu'aux Chinois eux-mêmes. Alors voilà, ce chauffeur de camion qui attend près de ce qui sera vraiment, en ce mois d'août 2008, la photo du mois. Ici, t'as trouvé une maison. Comment tu as réussi à te loger ici avec ta petite famille ?
Moi, tout de vendre. Je loue mon logement. Tout de vendre, il y a 300 €, tout de vendre.
Ça me coûte 300 quoi par mois.
Et on gagne 2000.
Ça fait 30 euros de logement.
Et les enfants, tu les envoies à l'école ?
100 euros.
Ouais, ouais, il va à l'école. Et tu payes pour l'école ?
150
par mois, les frais de scolarité.
100 euros, 150.
Et si t'es malade, t'as une sécurité sociale, t'as quelque chose ?
C'est le meilleur. Non, il n'y a pas tout ça.
Meilleur.
Moi, j'ai pas droit à tout ça.
Le meilleur. Supposons que ta femme, elle a besoin d'une opération grave. Qui est-ce qui paye ?
C'est moi qui vais payer les frais de
scolarisation.
Ça, c'est le patron, il s'en occupe pas de ça.
Et t'as pas d'assurance ?
Non, j'ai pas d'assurance.
Et ça fait 10 ans que tu es à Pékin comme ça ?
Ouais, pendant 10 ans, ça a toujours été comme ça.
Et dis donc, pour parler d'autre chose, comment tu trouves un peu ce qui se construit là ? Ici, on est sur le site des Jeux Olympiques, c'est en construction, le chantier avance, là on voit ce magnifique stade en nid d'hirondelles, on voit etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi ? Tu trouves ça beau ?
On doit pouvoir dire que c'est beau.
Est-ce que tu vas essayer d'assister à certaines épreuves ?
Évidemment, j'ai envie d'en voir.
Qu'est-ce que tu
veux dire ?
Le problème, c'est qu'en 2008, les Mingong, les gens qui viennent de l'extérieur de Pékin, on ne pourra pas rester ici, à Pékin.
Ils vont vous mettre dehors ?
Nous sommes dans le construction.
Nous, on est dans la construction, donc on devrait pas être expulsé. Mais les autres Mingong qui n'ont pas de travail ou qui sont pas dans la construction, ils seront renvoyés chez eux.
C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on va expulser les Mingong pour les Jeux Olympiques de 2008?
Très loin. Bah, on a peur qu'il y ait du désordre avec tous ces Mingong.
Est-ce que vous essayez de vous défendre et de vous organiser un peu entre vous, les Mingong, pour obtenir des meilleurs salaires, tout ça?
Non, bien sûr, des syndicats, des organisations comme ça.
Est-ce que...
Ça le fait rire, ça.
Évidemment, il n'y a pas tout ça.
Et comment c'était que la vie quand tu étais petit? C'était la campagne?
Ouais, c'était dur, la vie à la campagne, quand
j'étais petit.
La plupart du temps, quand j'avais 10 ans, on mangeait de la farine de maïs, quoi.
Mais vous mangez de la viande?
On avait terriblement envie d'en manger, mais on n'avait pas d'argent pour acheter. Non, à cette époque-là, on n'avait pas d'argent pour acheter de la viande.
Alors, qu'est-ce que tu espères pour tes enfants?
Évidemment,
avec tout l'argent que je gagne, j'espère que je vais pouvoir envoyer mes enfants à l'école.
Et jusqu'à quel âge tu es allé à l'école?
Jusqu'à 13 ans.
Ok, mais nous on te pose des questions, tu peux nous poser des questions aussi. D'où on vient d'après toi?
J'en sais vraiment rien, j'ai envie de vous demander. Alors, d'où est-ce que vous venez?
D'après toi?
Je sais pas du tout, ça c'est difficile de savoir. Hein. Difficile à dire.
Tu crois qu'on est américain?
On dirait que non.
Des Russes?
Non, les Russes, ils ont des nez beaucoup plus gros que les vôtres. N'est-ce pas?
Oui, ils ont des gros nez, des rouges.
Ouais, c'est ça, ils sont rouges les nez.
Ils ont toujours des gros nez rouges, des Russes. Non, nous on est français.
France.
On vient de France. Tu connais la France?
Non, je sais pas où c'est la France. Je sais pas où c'est.
Beijing Lafitte Castle. On est en plein de campagne, là c'est un peu la brousse, c'est un peu la brume. On est passé par des autoroutes, devant des immeubles incroyablement hauts en construction à perte de vue. Et puis tout d'un coup on a pris sur une petite route à gauche, pas loin de l'aéroport. Et là, c'est un peu comme si on avait une hallucination. Welcome to Lafitte Château, mais un château français avec ses toitures à coupole, à chien assis, en pierre blanche, et à gauche, eh ben c'est une construction.
C'est une nouvelle construction. C'est plutôt des petits châteaux privés, et comme le petit villa est pas très grand, ça fait 2 étages et à peu près 200 mètres carrés.
Ah oui, c'est très modeste par rapport à celui qu'on voit là. Rosie, expliquez-nous où on arrive là.
Et maintenant, nous sommes au château Lafitte de Pékin. Ça se trouve à peu près de 30 km au centre de Pékin. Ça fait construire il y a 2 ans.
Et là, on rentre, on passe devant. Il y a des statues, des cariatides, des urnes de style gréco-romain, une grande fontaine en bronze avec au milieu Neptune, et des grosses et belles voitures garées devant l'entrée du lobby. Alors, j'arrive pas à voir si c'est de la vraie pierre ou si c'est de l'assemblage. Je touche la façade. Ah oui, c'est du faux. Et nous voilà dans une entrée avec lustre, sol en marbre, dorure, musique, luxe, calme et volupté.
Et on voit là, sur les côtés, il y a des tableaux qui représentent l'Arc de Triomphe, le château de Chenonceau, le château de Chambord. Là, une petite scène champêtre typique dans le style un peu poussin. Des fauteuils Louis XVI. Un énorme hall avec des lustres. Ça peut faire salon de réception.
Ah, magnifique, non? Hein? Ah, vous voyez bien que la culture française est quand même encore influente et prestigieuse dans le monde et vient couronner des années qui ont suivi la fameuse déclaration de Deng Xiaoping, s'enrichir est glorieux. Et bien la voilà, la gloire de ceux qui se sont enrichis dans cette Chine et qui ont construit, vous avez compris, peut-être déjà d'immenses châteaux, dont celui-ci, Château Lafitte, à 30 km de Pékin. Eh bien, on pourrait être comme à la maison, comme à la maison, comme en France, un château entièrement reconstitué avec tout ce qu'il faut. Et on va en avoir une idée un peu plus précise avec Madame Oignon. Oui, elle s'appelle Madame Oignon et c'est notre guide et la conseillère de nos hôtes.
Oui, si vous regardez par la fenêtre, c'est impressionnant les villes. C'est Madame Zhang.
C'est Madame Zhang.
C'est la maîtresse des dieux alors.
Voilà, c'est la châtelaine.
Et alors vous, Madame Oignon, vous êtes la conseillère, la consultante.
Je les accompagne depuis 2001. C'est l'ambassade de Chine qui m'avait demandé de rencontrer Monsieur Zhang à Pékin. Et lorsque je l'ai rencontré, il m'a fait part effectivement de son choix de construire un château, un petit château avec un chai, parce qu'il voulait communiquer autour du vin. Et puis, il arrive à Paris, sans s'annoncer, fin juillet, et un vendredi soir. Qu'est-ce qu'on peut faire en France à cette saison? Rien. Surtout, j'avais absolument rien préparé. J'avais la chance d'habiter Maison Lafitte.
Le Maison Lafitte des Yvelines.
Oui, des Yvelines, exactement, le vrai. Le lendemain matin, je lui ai donné rendez-vous vers 10h. Je l'ai emmené vers Maison Lafitte. Et quand il a aperçu le château, quand on arrive à Sartrouville et qu'il aperçoit le château au loin, il a fixé son nez près de mon pare-brise. Il fixait le château sans dire un mot. Je l'ai posé à l'intérieur de la cour du château. Et au bout d'un quart d'heure de silence, il m'a dit « Je veux rien voir d'autre, je veux le même ». C'est pour ça que le château se retrouve là. C'est vraiment le jeu.
Ici, au nord-est. Nord-est, on est de Pékin.
Nord-est de Pékin, oui. Nous sommes à moins de 30 km du centre de Pékin.
Et alors, à quoi il sert ce château?
C'est pas sa résidence, il n'y vit pas. Il veut tout simplement montrer un petit bout de la France à ses amis chinois. Dans des réceptions, en organisant beaucoup de dîners autour de ses amis. Et puis, c'est un lieu de séminaire pour les grandes entreprises chinoises ou étrangères. Puis, un lieu de mariage. À partir du printemps, quand tout est vert, il y a 3, 4, 5, 6 mariés par jour qui viennent faire leur book de mariage. Parce qu'on se marie sur catalogue, surtout ici en Chine.
Ah bon?
Oui, surtout.
Alors je veux le château, le lustre.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et après, on montre à la famille où on s'est marié. Elles sont en jolie robe de mariée, mais en basket et en jean dessous.
Ah bon? C'est l'image.
Voilà, c'est l'image. Nous allons déjeuner.
Ah d'accord, on rentre dans un salon à part. Et on rentre dans un salon, oh là là, impressionnant là. Tout en lambris doré.
Et doré, exactement. Comme à Versailles, puisque monsieur et madame Chang souhaitaient avoir un intérieur un peu plus sophistiqué, pas tout à fait comme celui de Maison Lafitte. Il a été construit très rapidement.
Ah bon?
Très très rapidement, avec des milliers de petits ouvriers qui ont fait à la main toutes ces moulures. Ça a été fait comme à l'époque de Louis XIV, puisque tous les documents, les vieux d'Alembert, je les ai fait traduire en français contemporain,
oui.
Puis après en chinois. Et ils ont repris ces documents, et ils ont travaillé sur la terre, sur le plâtre, de la résine. Et après, chaque petit ouvrier avait son morceau de sa plaque de bois, il taillait. Donc ça a été fait vraiment dans la tradition. C'était incroyable. C'était fascinant, vraiment fascinant, fascinant de les voir travailler. Et surtout s'approprier notre culture avec une telle facilité. J'étais émerveillée, mais vraiment émerveillée. comme il a beaucoup investi dans la construction...
Oui, ça a coûté d'ailleurs.
Oui, c'est difficile à dire parce que la construction s'étend tellement, mais je crois que le château, c'est 50 millions d'euros.
50 millions d'euros. Quand même.
Oui, ça fait une petite somme. On a importé la pierre de France.
Ah bon ?
Oui, oui, bien sûr. Ça coûte cher, quand même.
Vous pouvez poser à la chinoise.
Mais est-ce que ça ne provoque pas l'envie de tous les autres, de tous ceux qui n'y arrivent pas ?
Effectivement, il y a toujours autant de pauvres. Ils sont un petit peu moins pauvres qu'ils étaient dans les années 90 ou 80.
Le riche s'enrichit, le pauvre aussi.
S'enrichit aussi, exactement. La société s'élève. Donc, bien sûr que les différences sont toujours là. Ça, c'est clair. Mais je dis souvent, ce qui a fait la richesse de la Chine aujourd'hui, c'est tous ces petits ouvriers qui ont du travail, qui ont travaillé durement et qui ont enrichi leur pays. Si la Chine est là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces petits ouvriers.
Voilà, et puis j'imagine que pour beaucoup, M. Zhang et son épouse sont la preuve que le système capitaliste marche.
Il fonctionne très très bien. Il suffit d'aller dans la rue, lever les yeux et vous voyez des jolies voitures... dans le quartier des maisons magnifiques, puisque aujourd'hui, avoir une maison, c'est 1500 mètres carrés.
Ah oui.
Entre 1000 et 1500 mètres carrés. Donc,
pourquoi faire moins quand on peut faire plus ?
Quand on peut faire plus, bien et beau. Et riche, surtout.
Comme ça.
Hebei.
On vient du Hebei.
Hebeijang.
Ah, la province du Hebei.
Est-ce que vous êtes des Mingong?
Oui.
Vous êtes tous des Mingong. Tout ça, c'est des Mingong.
Ça fait 3-4 ans qu'on est Mingong.
Et qu'est-ce que vous faites comme travail?
On est en train de construire
le stade là.
Waouh, mais c'est immense ce stade. Hein. C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire.
Oui, c'est vraiment grand.
Voilà, c'est vraiment grand. Ah oui, grandeur pour grandeur. Elle vous a plu, Madame Onillon, hein? On va la retrouver dans son grand château, Lafitte, avec Monsieur Wang et Madame Bang et Guy Vantine. Mais on les a laissés déjeuner. Ils sont en train de manger, se gaver de langoustes avec du Bordeaux, etc. On va les laisser de côté. On revient, nous, équilibre social, là-bas, si j'y suis, oh là là, 50-50. On revient avec les Mingong, avec les petits ouvriers. Elle a dit, Madame Onillon, les milliers de petits ouvriers, j'ai des petits ouvriers qui ont fait tout le travail, les petits ouvriers, et bien voilà des petits ouvriers, là, sauf qu'ils sont pas en train de faire un château, mais presque, ils sont en train de construire la cité olympique, le stade olympique qui vous émerveillera, nous en sommes persuadés, cet été 2008. Alors qu'est-ce que vous faites exactement comme travail ?
On fait les gouttières.
Et combien on gagne quand on fait ce travail-là ?
C'est entre un peu plus de 1000 kuai et puis jusqu'à 2000 à peu près.
Entre 100 et 200 euros.
Et c'est bien payé ça ?
不多，一般了，我们那儿工资就一般了，你这我们那儿工资也不高。
Ouais, les salaires sont pas très élevés pour construire ce truc.
Et combien d'heures vous travaillez par jour?
Un peu plus de 8 heures par jour.
Un peu plus de 8 heures?
Ouais, tous les jours 8 heures.
Est-ce que vous serez là au moment des Jeux Olympiques, vous?
Oui, bien.
C'est pas sûr qu'on soit à Pékin.
Parce qu'on nous a dit que les Mingong seraient expulsés. C'est vrai?
Mingong,
c'est possible, ouais, c'est possible.
Mais c'est ce que vous craignez?
Ouais, ouais.
Ah. Vous vivez dans les baraques là-bas, vous dormez dans les baraques?
Ouais, c'est dans des dortoirs.
D'accord.
Ouais, c'est comme à l'armée.
Alors qu'est-ce que vous espérez? Ouais,
bah bien sûr qu'on va faire fortune. Chacun.
Et toi, de quoi tu rêves?
Ah,
bah moi j'ai envie de rentrer chez moi, voir ma femme et mes enfants.
Et ils sont loin?
Ah, moi je viens du Renan.
Mais ça c'est loin le Renan.
Ouais, ouais, c'est vraiment loin.
Tu vas rentrer là pour le premier de l'an?
Ah ouais, ouais, je rentre pour le nouvel an.
D'accord, alors tu... Ah, qu'est-ce que tu vas leur ramener?
Moi je rapporte de l'argent.
T'as combien d'enfants?
J'en ai deux.
Deux? Et tu fais vivre tes parents aussi? Tu aides tes parents?
Ouais, c'est bien. Ils sont à la ferme et ils cultivent.
Ah, tu es un paysan?
Ah non mais...
Ouais, je suis paysan.
Et t'es venu parce qu'il y avait plus, on pouvait plus vivre comme paysan là-bas?
Ouais, c'est ça.
Tiens.
C'est pour le travail. La raison, c'est le travail.
Et lui, il nous disait que quand il était gosse, il y avait juste du maïs à manger. Il n'y avait même pas de farine de blé. Toi, c'était pareil?
Ouais, c'est ça.
Ouais. Mais ce qui vous a frappé, c'est les petits ouvriers qui ont fait le château. Eh bien, on retourne à table avec monsieur et madame Wang, madame Oignon et Guy Vantil qui s'arrangent toujours pour mettre les petits plats dans les grands.
Tout est possible en Chine, de créer, d'inventer et de réaliser surtout, sans peur. Enfin, sans peur comme nous les avons, nous, en France, parce qu'on est très timide quand on a envie de se lancer dans une entreprise. Ici, non. Vous voyez, aujourd'hui, un petit ouvrier, demain, il sera le milliardaire. Et ça, en espace de quelques mois. Ça, c'est possible en Chine. Cette ouverture vers...
L'argent coule à flot.
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'argent. Le gouvernement chinois demande à ce qu'il reste à l'intérieur et que ça se développe à l'intérieur et qu'on consomme à l'intérieur. Donc, ça se voit. Ça se voit dans notre quotidien tous les jours. Dans les restaurants, dans les développements de boutiques. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de boutiques de luxe qui se créent à Pékin. Et les Chinois sont consommateurs, donc ils ont raison.
Et Ferrari a un problème avec ses listes d'attente pour la fourniture de derniers modèles.
Oui, Rolls, je crois qu'il faut attendre 2 ans pour avoir une Rolls.
C'est notre argent, ça.
Surtout quand on a beaucoup d'argent et qu'on peut payer tout de suite. Parce que dans la demande chinoise, c'est dans l'instant, je veux. C'est tout de suite, je peux payer, je veux. On aime montrer, on aime dire qu'on a réussi et il faut le montrer.
C'est ça, c'est la...
C'est important de le montrer.
On achète sa culture, en fait.
Bien sûr. Il ne faut pas oublier que les années du communisme ont fait quand même beaucoup, beaucoup de mal à toute cette génération, la génération de Madame Chang. Donc, ils ont besoin de se réapproprier ce qu'ils ont perdu pendant un certain nombre d'années.
Eux, ils ont été dans les périodes où ils étaient gardes rouges.
Oui.
Ils ont été dans cette période-là, le grand bond en avant.
Exactement. Donc, c'est le produit typique de la Chine d'aujourd'hui. Et qui a envie... En plus d'effacer cette période, qui est une période très, 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 très douloureuse pour eux, ils en parlent très peu, mais je sais qu'ils ont terriblement souffert. Surtout le couple, s'ils ont été envoyés dans le nord-est de la Chine, où il fait moins 50. Et à moins 50, vous êtes en train de tailler des cailloux.
Ah oui.
C'est un peu douloureux.
Ah, ils sont déjà passés de Mao à Rothschild, sans passer par la case au milieu, quoi.
Ils ont fait partie de cette génération de Chinois qui souhaitaient créer leur propre société privée et de s'enrichir, puisque c'était le but.
Voilà, merci à tous. J'espère que vous avez bien compris la leçon, chers petits ouvriers. S'enrichir est glorieux. Voilà. On continuera demain ce voyage en Chine. Merci à Madame Onillon, à Monsieur et Madame Chang, à Routy, Stéphanie Olivier et à tous nos amis Mingong du chantier des Jeux Olympiques de Beijing. Merci à Yang Yang, notre traductrice, et à Luc Richard, notre ami Luc Richard, qui vient de publier aux éditions Mille et Une Nuits, c'est tout juste sorti, Pékin 2008, pourquoi la Chine a déjà gagné. C'est une suite de réflexions et de reportages à travers cette Chine que Luc connaît de mieux en mieux. La Chine sera-t-elle notre cauchemar? C'était le bouquin précédent de Luc Richard avec Philippe Cohen et c'était également aux éditions Mille et Une Nuits. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, où bientôt on vous présentera un diaporama de photos sur la Chine de faites au cours de ce voyage. Et puis autre chose, on va donc la semaine prochaine vous présenter un reportage sur le 11 juin 1968 à Sochaux. Et dans cette période-là, venant de commencer à Besançon, et puis ça s'est continué à Sochaux notamment, à Séville, entre guillemets, le groupe Medvedkin, c'était des cinéastes qui s'étaient mélangés avec des travailleurs, ou plutôt des travailleurs qui étaient mélangés avec des cinéastes, et ça a donné un certain nombre de films. Alors, si vous avez été dans cette histoire-là, si vous avez vous êtes apparu dans les films, ou si vous avez été opérateur, enfin, si vous avez fait partie de cette aventure, vos témoignages nous intéressent. Je vous rappelle le numéro du répondeur de la base, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Philippe Duclos et Sandrine Laurent étaient à la technique aujourd'hui. Raphaël Mouter et Coy Nguyen ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, qui attend vos messages, tous vos messages, au 01 56 40 37 37.